Le sourire des lotophages avec Maxandre, Léna, Élie, Océane, Romane, Nathan, Jade et Nine. Vous écoutez Radio Campus Tours.
Au fait, comment allons-nous retrouver la route d'Ithac ? Demanda un des marins. L'air du pays t'attira comme un parfum irrésistible, plaisanta un des compagnons. Ulysse, planté à la proue, main aux hanches, regarda vers le large, approuva. Oui, il y aura quelque chose de ce genre-là. Le parfum de la patrie, je suppose, l'odeur des chèvres et du fumier de mouton. La senteur de nos fromages et des brochettes grillées. Le crottin de chez nous. L'équipage avait une grande envie de plaisanter. Ulysse ne s'informala pas. Et continua. L'odeur du miel, de nos abeilles, des oliviers, de leurs huiles si douces, la terre séchée, du romarin, du thym, et même l'odeur de la laine finement tissée par nos femmes.
Ah, capitaine, toi aussi tu as hâte de rentrer à ce convoi, s'éclatèrent ces hommes. Oui, se dit Ulysse, j'ai hâte de retrouver ma chère femme Pénélope et mon fils qui n'est qu'un bébé quand je suis parti. Ah, par tous les dieux, quand je pense qu'il a maintenant qu'une dizaine d'années, il doit être déjà manié habilement l'épée et la lance. J'ai hâte de revoir mes parents, mon père, la lèvre de ma mère, Anticlée, et puis mon île, mon foyer, mon palais. Qu'est-il arrivé là-bas alors que nous combattions si loin de chez nous? Chacun est-il vivant et en bonne santé? Alors, capitaine, quelle direction? Ulysse se secoua et se nostalgie le quitta instantanément pour arriver plus vite à Ithac. Il lui fallait être efficace aux manœuvres. Profitons des bonnes dispositions de Poséidon, qui nous offre une belle mer et des gaules, qui nous donne bon vent, s'écria-t-il. Éloignons-nous de cette rive d'Asie. Cap au sud, les ondes bateaux ne s'afflottent. Suivez son navire amiral, comme autant de canetons suivant leur mer sur un étang. Si tout allait bien, il ne leur faudrait que quelques jours pour débarquer dans la mer patrie. Ulysse se sentit ébloui par cette heureuse perspective. Il savait bien pourtant que les projets des hommes sont assez souvent contrecarrés par les décisions des dieux, ou même leurs caprices. Mais, dans son enthousiasme, il n'y pensait presque pas. Son regard parcourait la mer, et il ne se rendit pas compte de tout de suite que son bateau partait dans une mauvaise direction.
Soudain, il remarqua que le soleil n'était pas du côté où il aurait dû être. Il se précipita vers l'homme de barre, lequel bataillait contre un environ récalcitrant. « Qu'est-ce que tu fiches, imbécile ? Est-ce que je ne viens pas de te dire cap au sud ? Ce n'est pas de ma faute, capitaine. Je fais ce que je peux, mais regarde, malgré tous mes efforts, la rame, le gouvernail me résiste, et nous sommes entraînés vers le nord. » Le marin avait un ton à la fois désolé et affolé. « Ah, les dieux commencent déjà à nous jouer un de leurs petits tours, » se dit Ulysse. « Bien. » Il ne faut jamais essayer d'aller contre leur volonté. Laisse faire les dieux. Ce sont eux qui nous conduisent, répondit-il au barreur avec un soupir résigné. On va voir ce qu'ils nous veulent. Alors le barreur ne lutta plus, et bientôt une côte fut en vue. Tandis qu'ils approchaient, Ulysse demanda à quelqu'un. Quelqu'un sait où nous sommes? Une idée? Une suggestion? Tous les hommes pointaient le regard vers cette côte qui ressemblait à des centaines d'autres. Une plage caillouteuse plongée de pentes couvertes de végétation sèche et grisâtre et odorante. Et plus loin, une ville ne serait pas... Et plus loin, une ville. Ce ne serait pas Ismara, dit quelqu'un, la cité des Cicones? Mais alors, remarqua Ulysse, nous serions en trace. Ce ne fut qu'un cri parmi l'équipage, des alliés des Troyens, des ennemis. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Demanda le second bateau. Les dieux nous ont conduits eux-mêmes ici. Ce n'est pas par hasard, fit Ulysse, qui sentait déjà son épée frétiller dans son fourreau. Il jeta un coup d'œil à ses bateaux qui se rassemblaient autour du sien. Nous sommes nombreux, nous sommes acquéris, et nous avons l'avantage de la surprise. Hé hé, une bonne surprise, ricana l'un des hommes. La conclusion s'imposa d'elle-même, et Ulysse s'exclama. Allons-y, débarquons, on va leur donner une bonne leçon. Les Grecs entrèrent dans Ismara et passèrent au fil de l'épée tous ceux qui croisaient, comme s'ils répétaient le terrible carnage de Troie. Enfin, tout ensanglantés, épuisés mais satisfaits de leur victoire et de leur bulletin, Ulysse et ses hommes se retrouvèrent sur la plage au soir tombant. « Capitaine, que fait-on ? On rempart tout de suite ? On peut rester dormir sur la plage ?» Le temps était idéal. Des étoiles commençaient à s'allumer dans le ciel clair. Les cyclones étaient anéantis. Pas de danger à l'horizon. « D'accord, » déclare Ulysse après un long instant de réflexion. Montez le butin à bord, puis dormons sur le rivage avant de repartir à l'aube. « Regardez, il y a un ruisseau ici. Nous pouvons même nous laver. » Une heure plus tard, propre et repu, Ulysse et ses compagnons dormaient comme des bienheureux, sans avoir même prévu de sentinelle. Mais tout le monde ne dormait pas au pays d'Isigone. Des survivants d'Ismara étaient allés chercher des alliés dans la campagne environnante. Et toute cette armée bondit sur les Grecs, armes à la main pour venger les morts.
« Alerte, alerte !» crièrent les premiers réveillés. Les Grecs se précipitèrent vers les bateaux, en baissant la tête pour éviter les jets de javelots. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, les ancres furent levées et chacun se saisit d'une arme pour fuir loin de ces furieux vengeurs. Cependant, beaucoup d'Ithaquiens avaient péri dans l'affaire. Les 3 jours qui suivirent, une terrible tempête se déchaîna, telle une punition divine, contre la flotte d'Ulysse. Dans des sifflements, de vents assourdissants, brins et balais, trempés de pluie, horrifiés par les vents mauvais, les marins, épuisés par les manœuvres, cherchaient non pas à maintenir un cap, de toute façon on ne voyait rien, mais à ne pas sombrer et à ne pas se retrouver par-dessus bord. Le bois des mâts et des coques grinçait, des vergues cassées, les voiles se déchiraient. Ulysse, à la proue de son navire, amiral, tendu vers les nuées, baies noirâtres et les éclairs psalmodiés des regrets. Quel chef suis-je pour avoir encouragé mes hommes à attaquer les Cyclones ? La guerre est finie et ces gens-là nous avaient rien fait. Nous les avons lâchement attaqués par surprise, sans même qu'ils aient le temps de saisir une arme. Le vent sifflait autour de lui en rafales furieuses. Ulysse tenait bon, dressé vers les cieux sans pitié. « Oh Dieu, écoutez-moi, je fais un serment. Jamais plus je n'attaquerai quiconque sans raison, car seuls les barbares agissent ainsi. » Le vent se calma quelques secondes et Ulysse jeta vers le ciel, cette fois, des paroles de repentir. « Oh Dieu, écoutez mes regrets. Je déplore d'avoir encouragé la mise à sac d'Ismara et d'y avoir participé. De tout cœur, je me repens. Je ferai ce que vous voudrez, mais ferez-vous cesser la tempête ? Permettez-vous que nous puissions regagner nos foyers ? » Du haut de l'Olympe, les dieux se consultèrent. Zeus et le grand d'entre eux sollicita le conseil des Olympiens. « Qu'est-ce qu'on fait ? » demanda-t-il à la cantonade. « On pardonne ? On fait cesser la tempête ? » ?»« Ah non, qu'il se débrouille !» rugit Arès, le dieu de la guerre, toujours adepte de la violence. « Cela nous distraira encore quelques jours. »« Ils sont épuisés, » remarqua Athéna, la déesse aux yeux pères. Elle aimait les êtres humains et était la déesse des guerres, juste, réfléchie et intelligente. Elle continua. « Je propose qu'on les aide, qu'on les laisse tranquilles un moment. Après tout, d'autres dangers les attendent, il me semble. Qu'en penses-tu, Héra ?»« Je suis la déesse du mariage, » déclara avec force l'épouse de Zeus. « Je veux qu'Ulysse rentre à Ithaque auprès de sa femme légitime. » fit simplement Aphrodite, qui se demandait pourquoi les couples légitimes étaient plus honorables que les autres. Hermès questionna Zeus. « Oh, moi, tu me connais, je ne prends jamais parti, mais je trouve qu'Ulysse courageux et honnête. »« Honnête ?» protesta Héphaïstos. « C'est juste un hypocrite. Le coup du cheval de bois, quand même. Pas hypocrite, astucieux, » fit Athéna. « Le cheval de bois, c'est une autre histoire, » trancha Zeus. « Nous parlons de ce qui le concerne aujourd'hui.
Chacun donna son avis, pesa le pour ou le contre, et finalement les dieux décidèrent que les prières et serments d'Ulysse avaient été sincères et qu'on pouvait faire cesser la tempête. « D'accord, grommela Poséidon, dieu de la mer, mais qu'il fasse encore une erreur et je vous garantis que je ne lui ferai pas de cadeau. Tout le monde est bien d'accord ?»« Eh bien, disons que oui, acquiesça Zeus. » Et d'un simple geste de l'éclair d'or qu'il tenait à la main, il redonna calme et sérénité à la mer et aux cieux. Les vaisseaux d'Ulysse se rassemblèrent et tous les marins s'étonnèrent. Le beau temps était revenu aussi vite que le mauvais temps. S'était imposé 3 jours plus tôt. Hélios fit briller le soleil sur la mer. Il n'y avait plus qu'à réparer le bateau qui avait souffert de la tempête. Le meilleur parti à prendre une fois les bateaux réparés fut de se laisser guider par la course du soleil. Il leur fallait naviguer vers l'ouest et c'est ce qu'ils firent. Jusqu'au moment où se produisit la même mésaventure que quelques jours plus tôt. Le pilote du navire d'Ulysse ne parvenait plus à maîtriser la rame qui servait à gouverner. Ulysse, vite, viens voir ! Le gouvernail m'échappe. Ulysse se précipita, mais ses efforts ajoutés à ceux du marin et de quelques autres qui étaient accourus ne servirent à rien. Le bateau était irrésistiblement attiré vers une côte. « Au fond, tant mieux !» déclara Ulysse. « Nous avons besoin d'eau et de victuailles. » Autant ne pas résister, mais attention, on ne fait plus de bêtises, on n'attaque personne, je l'ai promis aux dieux, et montrons-nous prudents. « Sais-tu où nous sommes ?» questionna un des marins. « Pas plus que vous, une zone inconnue du monde. Peut-être, mais la côte a l'air accueillante. Préparez la chaloupe, nous allons envoyer des émissaires. » Aussitôt, les hommes eurent un mouvement de recul, pourvu qu'il ne me désigne pas, pensa chacun d'entre eux, car on n'aborde pas sans péril une terre inconnue. Toi et toi, désigna Ulysse, sans état d'âme, et toi, Antiphos, mets-toi en grande tenue, le casque sous le bras, sans armes, et avec ce bâton de commandement. D'accord, répondit Antiphos, tu demanderas habillement aux habitants, s'ils veulent bien nous procurer de l'eau et des vivres. Poliment, nous comptons tous sur toi, c'est compris ? Oui, bien sûr, habillement et poliment. Tandis que la flotte stationnait au large et que le reste de l'équipage appuyé au bastingage fixait de loin la côte et sa ville, la chaloupe, se dirigea vers le port. Quand Antiphos et ses deux acolytes descendirent en déployant de larges sourires un peu gênés, ils eurent la surprise d'être cordialement accueillis.
Des hommes et des femmes s'étaient approchés à leur rencontre et ne se montraient en aucune manière menaçants. « Bienvenue chez nous, étrangers !» Ce furent les premières paroles que les trois émissaires entendirent. « Venez, approchez-vous, nous ne voulons jamais de mal à nos visiteurs. Bienvenue au pays des lotophages !» Étonnés, Antiphos et ses compagnons avancèrent un peu gauchement. Vous êtes sans doute fatigués du voyage. Permettez-nous de vous offrir notre boisson nationale. Une femme approchait une cruche et des coupes surgies de nulle part furent aussitôt tendues aux visiteurs. Elle remplit les coupes d'un geste gracieux, le liquide d'un blanc opalescent n'avait pas l'air suspect et sentait bon. Allez-y, buvez sans crainte. Croyez-moi, vous en redemanderez, fit un des habitants. Les émissaires se jetèrent un regard et goûtèrent prudemment une gorgée, puis trois. C'était tellement délicieux qu'ils n'en laissèrent pas une goutte. Pour un peu, ils auraient léché le fond des coupes. D'un geste aussi naturel que spontané, la femme à la cruche remplit de nouveau les trois coupes. Et les émissaires burent immédiatement avec autant de plaisir. « Quel pays de rêve !» murmura Antiphos. « Tout a l'air si serein ici. Il semble que vous ne connaissiez ni la guerre, ni les difficultés de la vie. On aimerait rester ici pour toujours. » Il était ébloui par la quiétude qui se dégageait de cet endroit. « Oui, fit l'homme qui les avait accueillis. C'est ce que nous disent tous nos visiteurs. Et en effet, ils restent parmi nous, à profiter de la douceur de vivre qui règne ici. Désirez-vous encore de notre lotos ? N'hésitez pas, nous n'en sommes pas avares. Sans se faire prier, les trois hommes reprirent une coupe de ce fameux lotos, puis entraînés par ces gens si chaleureux, si sympathiques, ils se dirigèrent vers la ville. Tous les habitants les saluèrent aimablement. On leur proposa de coucher sur place. Mais nous ne sommes des émissaires. Ils avaient déjà un peu oublié ce que pourquoi ils étaient descendus à terre. Oui, il faudrait les vivres, l'eau. Ne craignez rien. Nous avons ici tout ce qu'il vous faut pour vous nourrir. La terre est riche. Il y a à peine besoin de la cultiver. Les dieux sont bons avec nous. Des sourires encore. Voyons, il fallait quoi au fait ? Je peux en avoir encore un peu ? Demanda Antiphos en tendant sa coupe. Une fois de plus, mais naturellement,
Mais ils s'interrompent, le regard aussi vite que celui des hommes qui l'encadraient. À la réflexion, tout le monde y semblait avoir un regard un peu flottant, des gestes un peu ralentis, des sourires languissants. Mais qu'est-ce que ça pouvait faire ? N'est-ce pas agréable ? Fallait-il donc toujours être actif, dynamique, bagarreur, agressif ? Ce pays, comme avez-vous déjà dit, fit Antinoff, avec un sourire qui devenait rapidement languissant lui aussi, le pays des lotophages. Ah oui ? Et vous seriez prêt à nous y accueillir pour toujours ? Bien sûr, je vous l'ai déjà proposé. Ah, je ne me souviens pas. Eh bien, pourquoi pas ? Il y avait pourtant un petit quelque chose qui s'agitait au fond de sa mémoire. Mais qu'est-ce que ça pouvait donc être ? Des livres, oui, voilà, à rapporter au bateau. Après quoi ? Après avoir bu une ou deux coupes ? Non, ce n'était pas cela. Après ? Ah oui, après négociation. Ça devait être ce casse-pied d'Ulysse, qui savait toujours tout mieux que tout le monde. Ulysse qui parlait de quoi ? Ah oui, l'amour de la patrie, le retour au pays. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire ? Et ce type, Ulysse ? Oui, c'était ça, mais qui c'était au fond Ulysse ? Non, je ne connais personne de ce nom-là. Sur le bateau, Ulysse commençait à s'inquiéter. Il y avait bien trop longtemps que ces trois hommes étaient partis. Que pouvaient-ils bien faire ? Une négociation ne devrait pas durer si longtemps. Et s'il avait été fait prisonnier, la petite chaloupe était sagement amarrée. Au port, nul être humain en vue. Ils étaient tous partis en ville. Après avoir tourné sur le pont comme un lion en cage pendant quelques heures, Ulysse, n'y tenant plus, finit par ordonner. « Allez, on va les chercher !» Et le bateau amiral se dirigea vers le port. « 10 hommes avec moi !» s'écria Ulysse. « Armes, cuirasses, casques, équipements, tout le grand jeu !» Les 10 hommes descendent à terre derrière leur chef qui bandissait en avant son épée vengeresse.
Se rassembla aussitôt sur le port une petite foule qui entoura les arrivants. « Bienvenue chez nous, étrangers. Vous êtes au pays des lotophages. Peut-être êtes-vous fatigués du voyage. Permettez-nous de vous offrir une coupe de notre boisson nationale. » 11 coupes apparurent comme par magie, ainsi qu'une jeune fille au sourire vague qui portait une cruche. « Ils n'ont pas l'air bien agressifs, » fit un des soldats. « On n'avait peut-être pas besoin de se mettre en grande tenue de combat. »« Ouais, » fit un autre, « et puis une petite coupe d'accueil, ça me dirait bien à moi. » « Taisez-vous, » rugit Ulysse, « il s'agit d'abord de retrouver nos hommes. »« Oh, Ulysse, tu es donc là, toi aussi ?»« Bienvenue, tiens, prends donc une petite coupe. »« Antiphos, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je t'ai pris pour un homme de ce peuple. »« Ah, c'est que j'en fais partie maintenant. »« Venez tous, venez nous rejoindre. » Il avait le visage heureux, béat, le regard vitreux et la parole un peu bredouillante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et cette coupe que tu tiens à la main ? C'est cette boisson qui te met dans cet état ? Jette-moi ça tout de suite ! Jamais ! S'écria Antiphos. Je suis maintenant citoyen du pays des lotophages et tu devrais en boire toi aussi, Ulysse. C'est une délicieuse potion de bonheur et d'oubli. D'oubli ? S'écria Ulysse. Mais je ne veux surtout pas oublier, moi. Je veux me rappeler Ithaque, Pénélope et Télémaque. Je veux me rappeler que je veux rentrer chez moi. Jetez-moi ce breuvage, lâchez ces coupes. Allez, lâchez ! J'ai dit et remontai à bord. Non, pitié, ma boisson, mon lotos, j'en veux encore. Ils vous empoisonnent, Félix. Allez, vous autres, renversez leurs coupes et embarquez-les. Non, non, on veut rester, s'écrièrent les trois émissaires. Prenez-les par les pieds s'il le faut et hissez-les à bord. Ils gicotèrent autant qu'ils le pouvaient, mais ils étaient bien ramollis par l'étrange breuvage. Et la petite troupe d'Ulysse n'eut pas trop de mal à les ramener à bord. Les lotophages regardaient le spectacle qui, sans être violent, était tout de même animé. Sans réagir, sans protester, leur sourire inarrêtable accroché au visage. « À bientôt, étrangers » firent-ils avec des gestes de la main tandis qu'Ulysse organisait les manœuvres pour quitter le port. Mais sans doute les lotophages auraient-ils oublié le visiteur avant même que le soleil ne soit couché.
Vous écoutez Radio Campus Tours.